7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, ravis de vous retrouver sur RFI. Et aujourd'hui, on va faire un tour dans les villes du côté des bobos. Vous savez, ces bourgeois bohèmes, de Los Angeles à Berlin, en passant par l'Est parisien ou New York, ils transforment les quartiers populaires en lofts branchés, roulent à vélo, mangent bio, ouvrent des cafés concept, font des vide-greniers. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Alors comment ce phénomène change le paysage urbain? Quels sont les signes visibles de cette métamorphose? Qui sont ces nouveaux habitants? Comment vivent-ils? Et que deviennent les habitants historiques? On en parle aujourd'hui avec la sociologue Anaïs Collet. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence à l'université de Strasbourg, spécialiste de la gentrification, et vous venez tout juste de publier « Restez bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction » aux éditions de La Découverte. Et nous avons aussi dans cette première partie Sylvie Tissot, également sociologue au téléphone. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Donc vous êtes professeure à l'université Paris 8 et auteur de « De bons voisins, enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste ». C'était aux éditions Liber. Et vous avez particulièrement étudié la ville de Boston et New York aux États-Unis, là où tout a commencé. Et vous, Anaïs Collet, vous avez travaillé sur votre thèse, hein, c'est votre thèse qui est publiée, surtout à Montreuil et à la Croix-Rousse à Lyon. Alors on a vraiment l'impression que ce mouvement se mondialise. Vous nous direz comment effectivement ça se généralise partout dans le monde. Et on ira d'ailleurs, nous on a beaucoup de rendez-vous hein, dans cette émission, on ira à Berlin, on ira du côté de Buenos Aires aussi et dans les grandes villes, dans les médinas du Maghreb où les Européens sont en train d'investir dans les médinas. Alors les voisins, les voisines, pour une discussion mondiale, on attend vos commentaires, vos questions. Si vous voyez votre ville changer sous vos yeux, racontez-nous autrement. 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors les messages arrivent, ils arrivent très nombreux en fait, donc c'est vraiment un sujet qui parle du quotidien, qui vous parle les voisins, les voisines. Il y a par exemple Jacques, 25 ans, qui nous appelle de Lomé, qui laisse un message. Il dit qu'il faut laisser la classe bourgeoise construire dans les quartiers populaires car cela permet d'éviter les bidonvilles et les quartiers sales. À Abidjan, Mousse nous dit que moi-même j'habite dans un quartier populaire d'Abidjan et chez nous, les bourgeois sont en train de nous mettre à la rue ainsi que nos familles. À Chavannes, à Port-au-Prince, alors là c'est le mouvement inverse puisqu'il nous dit qu'à Haïti, les gens qui ont de l'argent ont tendance plutôt à fuir les zones populaires plutôt qu'à s'y installer. Alors continuez de réagir, on attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 pour intervenir dans l'émission.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
On va s'attaquer au mot d'abord, au mot de gentrification. C'est un mot assez barbare, assez étrange, Anaïs Collet. Pourquoi on l'a choisi?
Oui, effectivement, c'est un mot anglais en fait au départ, un néologisme assez récent qui date du début des années 60 et qui fait référence à la gentry, c'est-à-dire une petite bourgeoisie rurale initialement. Et ce terme était employé de manière un petit peu moqueuse par une sociologue au début des années 60 pour décrire les nouveaux habitants qui s'installaient dans des quartiers populaire du nord de Londres. Donc voilà, en anglais, gentrification, c'était plutôt un terme un peu moqueur. Et puis on l'a repris en français, faute de mieux. Et c'est vrai que c'est pas très heureux.
Mais alors, est-ce qu'on le trouve pas dans le dictionnaire ce mot?
Alors je crois qu'il a fait son entrée ou qu'il est sur le point de faire son entrée. Enfin, il est quand même en train de se diffuser très largement. Mais c'est vrai qu'en France, il est arrivé très tardivement. Les premières publications vraiment académiques qui utilisent le terme datent des années 90. De chercheurs français. Le premier ouvrage qui emploie ce terme, c'est les années 2000. Donc, on l'a récupéré assez récemment, même si le phénomène lui-même, en fait, existait déjà bien avant.
Sylvie Tissot, est-ce que vous l'avez adopté, ce mot, ou vous préférez parler d'embourgeoisement des quartiers populaires ou...
Non, je l'ai adopté comme beaucoup de sociologues, de géographes ou de politistes français, parce qu'il a l'intérêt quand même de désigner un phénomène plus précis que le phénomène d'embourgeoisement, c'est-à-dire qu'il désigne la réhabilitation du bâti dans des quartiers populaires de centre-ville, sous l'effet de l'arrivée des classes moyennes et supérieures. Donc je pense qu'il a un intérêt qui permet de spécifier quand même un phénomène urbain assez précis.
Alors ce phénomène urbain, est-ce qu'il est mondial? Est-ce qu'aujourd'hui, Anaïs Collet, effectivement, on le voit dans toutes les grandes villes ou les villes de moyenne importance?
Alors il est en tout cas largement européen et nord-américain, ça c'est certain. Il est sans doute aussi en train de se diffuser sur les autres continents de la planète dans des conditions assez différentes. Donc c'est assez intéressant d'aller voir aussi les autres visages de la gentrification dans ces parties du monde. Mais la difficulté c'est de pas englober trop de choses différentes sous le même terme, sinon on sait plus très bien de quoi on parle.
Mais à la base, je dirais, c'est parti du fait que c'est difficile de se loger dans les villes, que ça coûte cher, et du coup, ces nouvelles populations cherchent des endroits plus populaires, avec des mètres carrés moins chers pour pouvoir s'installer.
Oui, en partie, la situation, si je pars du cas français, initialement, les premières formes de gentrification, notamment par exemple celles que j'ai étudiées à Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse, n'étaient pas liées à des prix excessifs de l'immobilier dans les centres-villes. Au contraire, les personnes qui se sont installées dans ce quartier central fuyaient plutôt en fait les banlieues, le périurbain, qui étaient les espaces qui avaient le vent en poupe et qui étaient recherchés par la bourgeoisie établie. Donc les premières personnes à s'y installer sont effectivement des gens qui étaient fauchés, qui avaient pas beaucoup d'argent et qui étaient intéressés par ces quartiers parce qu'ils étaient très peu chers, ça c'est sûr. Mais on n'était pas dans le contexte actuel où ce sont les villes-centres qui sont les plus valorisées économiquement.
Alors Sylvie Tissot, c'est un mouvement qui a commencé où? Vous avez beaucoup travaillé sur les États-Unis, c'est là-bas que c'est né?
C'est là-bas aux États-Unis et aussi à Londres. C'est là que le phénomène a d'abord été remarqué, qu'il a été analysé. Donc dans des villes comme New York, comme Boston ou comme Londres. Et je voudrais juste rappeler aussi insister sur le fait que ces problèmes d'accès au logement sont absolument pas nouveaux, même si le phénomène de la gentrification date de plusieurs décennies. Il est important de rappeler qu'il traduit des phénomènes d'inégalité sociale et d'accès au logement qui ne sont pas nouveaux.
Mais alors racontez-nous, comment ça s'est mis en place à New York par exemple?
Alors à New York, à Boston, ce qui a beaucoup joué, c'est des politiques urbaines qui se donnaient comme objectif de raser, en fait, plus ou moins, des quartiers pauvres de centre-ville. Et c'est, en fait, ces politiques urbaines qui ont donné le coup d'envoi à la réhabilitation de quartiers qui, en fait, étaient considérés comme des quartiers ghettos, qui étaient très repoussoirs, qui étaient, pour une partie d'entre eux, occupés par des populations noires et qui étaient extrêmement stigmatisés et, en fait, dévalorisés par rapport à ce qui apparaissait comme les endroits les plus désirables, qui étaient en fait les suburbs, les banlieues en voie d'expansion aux périphéries des villes. Donc ça a été le premier phénomène. Et puis dans les années 60 et 70, on assiste à un rejet de ce mode de vie dans les banlieues résidentielles et l'apparition d'un nouvel attrait pour ces espaces de centre-ville où ces populations ont pu voir la possibilité de traduire finalement dans leur choix résidentiel aussi certaines valeurs, dont cette valeur qui va après émerger, qui est celle de la mixité sociale et de la diversité.
Mais est-ce qu'il y a vraiment un mélange de populations dans ces quartiers aujourd'hui?
Il y a un mélange de population dans ces quartiers, mais comme le rappelait Anaïs Collet, c'est aussi des quartiers qui présentent une très très grande diversité. Donc la gentrification peut prendre des visages et des degrés très très différents. Mais de fait, l'arrivée de populations plus aisées crée une mixité. Alors après, est-ce que cette mixité, par quoi se traduit cette mixité en termes de relations sociales? C'est encore tout un autre débat.
Et aujourd'hui, même les quartiers latinos, par exemple, ou le Bronx, des quartiers qui avaient vraiment des mauvaises réputations de coupe-gorge ou autres, sont en train aussi de changer de visage?
Oui, parce que la gentrification consiste aussi à, ou entraîne aussi une réhabilitation symbolique, c'est-à-dire que l'arrivée de ces populations s'accompagne d'un mouvement à travers lesquels ces quartiers qui étaient des quartiers repoussoirs vont devenir, alors sous l'influence de diverses initiatives, des quartiers qu'on va valoriser pour leur architecture, pour leur diversité, pour leur vie commerciale, alors qu'auparavant, de fait, c'était des quartiers repoussoirs, là, des quartiers maintenant beaucoup plus périphériques, comme par exemple le quartier de Sunset Park, un quartier latino à Brooklyn, qui est relativement loin de Manhattan, hein, ça veut dire des trajets importants pour ceux qui travaillent à Manhattan, connaissent un début de gentrification aujourd'hui.
Et vous la voyez comment l'évolution, là, en 2015, pour les années à venir?
Je ne sais pas si je me risquerais à faire des pronostics, mais quand on regarde les dernières années, cette gentrification, en tout cas dans ces quartiers-là, notamment à New York, va tellement vite que j'imagine qu'il faudrait un événement sans doute très très conséquent pour que ce mouvement soit stoppé. Il est extrêmement rapide et en tout cas à Brooklyn.
Merci beaucoup hein, Sylvie Tissot d'avoir été avec nous au téléphone. Donc, vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Paris 8 et auteur de Bon Voisin, enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste aux éditions Libert. Alors on va continuer d'approfondir ces aspects. Hein. Restez avec nous, on écoute tout de suite Alessia Cara, Here sur RFI. Gentrification, ce phénomène qui touche les quartiers populaires, qui sont pris d'assaut donc par les nouveaux bourgeois, avec Anaïs Collet, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la gentrification, et vous publiez « Restez bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction » aux éditions de La Découverte. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71, et également sur Facebook. Et avant de prendre Jean-Paul qui nous appelle d'Hyderabad, donc c'est en Inde, je voulais vous demander, Anaïs Collet, où est-ce que vous habitez? Dans quel quartier?
J'habite à la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris.
C'est un quartier qui est en train de changer beaucoup?
Absolument, c'est un quartier qui se transforme rapidement, oui.
Et c'est pour ça que vous y habitez? Il y a beaucoup d'universitaires, de journalistes.
J'y suis arrivée parce que j'habitais dans un quartier déjà très gentrifié, dans le 10e arrondissement, et que c'était devenu trop cher pour que je puisse m'y agrandir. Et donc, voilà, très naturellement, comme tous les gens concernés par ce phénomène, j'ai migré vers un quartier un peu moins cher pour avoir une pièce en plus. Et voilà, c'est comme ça que se déroule généralement le phénomène.
Alors, on a tout de suite Jean-Paul qui est camerounais, mais qui vit en Inde donc depuis 2013, exactement à Hyderabad. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Emmanuel.
Alors, c'est Sandrine aujourd'hui. Emmanuel est en vacances. Elle profite et moi, je prends sa place. Alors, en tout cas, c'est très, très gentil de nous appeler. Racontez-nous ce que vous observez, vous, à Hyderabad, où vous habitez depuis 2013.
Oui, le phénomène de la gentrification ici à Hyderabad est très 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 présent, surtout que Hyderabad est une ville en construction. Donc, on constate que les bidonvilles qui occupaient en majeure partie la ville sont en train de disparaître au grand dam des quartiers, des colonies résidentielles et des immeubles qui poussent un peu de partout. Alors ici, la particularité d'Hyderabad, c'est que, comme partout en Inde, bien entendu, la classe moyenne est considérable. Donc elle joue un peu un rôle de relais, c'est-à-dire les classes très aisées initient la gentrification du quartier en poussant les populations pauvres plus au bord, à l'extrême, aux extrémités des quartiers. Ensuite, cette classe moyenne-là s'appuie sur cette classe aisée-là pour étendre cette gentrification-là. Du coup, on a des bidonvilles qui disparaissent sur des kilomètres et des kilomètres. C'est un peu le cas, par exemple, moi je vis dans un quartier qui s'appelle Banjara Hills, et au départ, c'était un quartier qui était peuplé de bidonvilles. Donc c'était un quartier de pauvres. Après on a construit, on y a construit une colonie pour des députés de l'État dans lequel je vis. Ensuite, des opérateurs économiques ont développé des projets privés. En étendant, n'est-ce pas, c'est autour de cette quartier de députés, ils ont étendu maintenant des quartiers résidentiels, construit des immeubles, en poussant des populations pauvres beaucoup plus au bout, à l'extrémité, et en les forçant même à vider ces lieux-là, si je peux dire.
Alors, merci beaucoup, Jean-Paul, pour ce témoignage qui était très intéressant de voir comment ça se passe à Hyderabad, donc en Inde. Plus près de nous, en France, Anaïs Collet, vous avez étudié surtout la situation du Bas-Montreuil. On pourrait parler de cet exemple-là, hein, puisque on dit souvent que c'est la deuxième ville la plus peuplée de Maliens après Bamako. Enfin, ça, c'est pour Montreuil. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le Bas-Montreuil aujourd'hui?
Alors, dans le Bas-Montreuil, le phénomène n'a pas été exactement le même, au sens où ce qu'on entendait à l'instant dans le cas de cette ville indienne, c'est une transformation qui passe par le fait de raser les anciens bidonvilles pour construire des immeubles luxueux, si j'ai bien compris. Donc nécessairement, ça se fait avec l'appui, voire même à l'initiative des pouvoirs politiques et des acteurs économiques, comme l'a dit l'auditeur. Dans le Bas-Montreuil, le pouvoir politique a sans doute participé bon an mal an, plus ou moins volontairement, à la gentrification du quartier, mais ça a été un phénomène qui a surtout été initié par de manière, on va dire, spontanée entre guillemets, par l'arrivée d'habitants qui quittaient les quartiers de l'Est parisien, d'abord à la fin des années 80, au tournant des années 90, où on a eu une première bulle immobilière dans Paris. Et donc, un certain nombre de gens ont été chassés de leurs immeubles à cause de ventes à la découpe, parce que les prix augmentaient, etc. Et ont franchi le périphérique pour s'installer à Montreuil.
Ce qu'il faut dire aussi, que c'est dans cet espace-là, il y a quand même des friches industrielles, où il y a des espaces pour accueillir des nouveaux habitants, des espaces abandonnés.
Oui, voilà, c'est ça. Il y avait dans ce quartier du Bas-Montreuil énormément de petites usines, d'ateliers artisanaux et voilà, d'usines pas très grandes, qui ont en très grande partie fermé dans la deuxième moitié des années 70. Et donc il y avait effectivement beaucoup de friches, alors qui n'étaient pas complètement vides, hein, dans une capitale comme l'agglomération parisienne, ça se remplit très rapidement, mais avec des habitants qui n'étaient pas vraiment en mesure de s'opposer, des habitants sans droit ni titre, donc des squatteurs, ou alors des marchands de sommeil qui transformaient certaines friches ou certains immeubles abandonnés pour en tirer un maximum d'argent, donc des acteurs qui n'étaient pas tellement bienvenus ou tellement en mesure de s'opposer à des transformations. Voilà, donc là, des habitants ont pu arriver et racheter certaines de ces friches pour les transformer en logements ou plus simplement des appartements anciens dans des petits immeubles ou des maisons individuelles qui sont aussi nombreuses dans ce quartier.
Donc si je comprends bien, ce phénomène effectivement se déroule parce que c'est de plus en plus cher de vivre dans les villes, donc on cherche des endroits accueillants. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment que c'est sur ce quartier que ça s'est posé, je dirais, pourquoi ce quartier est devenu désirable?
Oui, alors ouais. C'est une bonne question. Ouais. Il y a une première raison, c'est celle que je donnais à l'instant, c'est ce tissu urbain assez spécifique. Par exemple, si on compare avec d'autres espaces de la petite couronne parisienne, les espaces étaient relativement appropriables par des particuliers. C'est-à-dire que, par exemple, si on va sur Saint-Denis, Aubervilliers ou Boulogne, ici les Moulineaux, pour prendre des communes qui ont des profils assez contrastés, les emprises industrielles étaient vraiment beaucoup plus grandes dans ces quatre communes, et donc leur transformation nécessitait l'initiative des pouvoirs publics. Aucun particulier ne pouvait prendre l'initiative de les racheter, de les transformer. À Montreuil, les unités étaient beaucoup plus petites et permettaient comme ça des initiatives privées.
Alors, quelles sont les conséquences de cette gentrification? Est-ce qu'il y a vraiment un mélange dans ces quartiers, et que deviennent les habitants historiques de ces quartiers? Et on continue le débat dans 3 minutes après le flash avec vous, Anaïs Collet, sociologue. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission, les voisins, les voisines. Vous seriez déçus de ne pas intervenir. Nous irons à Berlin, à Buenos Aires, dans les Médinas du Maghreb aussi. Dans 3 minutes pour l'instant, c'est l'heure du flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à tous les voisins, les voisines qui nous rejoignent. On parle de ces villes qui changent de peau, de ces quartiers populaires qui sont pris d'assaut par les bobos et qui se transforment. Et on appelle ça la gentrification. Phénomène mondial, viens chez moi, j'habite chez les prolos. Quels sont les signes visibles dans le paysage urbain? À quel rythme se fait ce changement? Et que deviennent les habitants historiques de ces quartiers? Contactez-nous pour échanger vos points de vue au 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook aussi, nous sommes toujours là pour vous. Anaïs Collet, vous êtes sociologue, donc maître de conférences à l'Université de Strasbourg, spécialiste de ce phénomène, la gentrification, et vous publiez « Restez bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction » aux éditions de La Découverte. Alors, qu'est-ce que vous entendez par « nouveau chantier de la distinction » ? C'est un peu énigmatique dans le titre. Qui se distingue exactement ?
Oui, ouais. je reconnais que c'est un peu énigmatique. En fait, il y a à l'œuvre dans le phénomène de gentrification, ce qu'on appelle en sociologie donc la distinction à la suite de l'ouvrage de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire une manière par laquelle certains groupes sociaux se distinguent d'autres groupes sociaux en adoptant des pratiques, des goûts, des manières de vivre différentes.
Donc c'est une manière pour eux d'affirmer ce qu'ils sont dans leur vie. C'est pas des vrais bourgeois, ils appartiennent pas à la vraie bourgeoisie. Ce ne sont pas non plus des ouvriers. Ils sont des sortes de classes moyennes assez artistes, enfin qui ont un fort capital culturel et donc ils veulent se retrouver entre eux et développer une nouvelle vie.
Oui. Alors ils veulent, ça serait un petit peu excessif, mais de fait c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que spontanément, parce que leurs ressources où leurs origines ne sont pas exactement celles de la grande bourgeoisie ou de la bourgeoisie traditionnelle, ils n'en ont pas exactement les caractéristiques classiques. Ils n'ont pas forcément d'héritage très important, pas forcément non plus d'enjeux de reproduction importants. Ils ont des enjeux plutôt d'ascension sociale, des enjeux de prolongement d'une trajectoire d'études ou d'une trajectoire professionnelle ascendante, des enjeux aussi de s'inscrire dans ce milieu artistique ou culturel qu'ils ont choisi. Et donc, le fait de s'installer dans ce quartier-là va être aussi en partie mis au service de cette trajectoire sociale.
Mais est-ce qu'ils appartiennent à une nouvelle classe sociale? Alors, nous, on dit les bobos, c'était facile, effectivement. Mmh. Est-ce que ce terme convient?
Alors, le terme de bobo, je ne l'ai pas repris à mon compte, même si, effectivement, c'est le terme médiatique qui serait le plus proche pour désigner cet ensemble.
C'est bourgeois, bohème.
Bourgeois, bohème, donc... voilà. Je ne l'ai pas repris d'abord parce que en fait il est tellement employé à toutes les sauces qu'on sait plus très bien ce que ça recouvre et puis également parce qu'il est employé de plus en plus depuis quelques années dans le débat politique avec un usage assez fort de de positionnement des hommes politiques qui l'emploient en l'utilisant un petit peu comme un punching ball et en disant nous on est proche du peuple puisque on est contre les bobos donc on est proche du peuple et c'est une espèce de rhétorique un peu facile qui masque des prises de position réelles en décalage avec cette affirmation.
Donc ces nouveaux bourgeois, je dirais, ne veulent pas ou ne peuvent pas acheter dans les quartiers riches, donc ils se différencient par là et ils veulent créer des espaces qui leur ressemblent. En gros,
c'est ça. Donc effectivement, alors nouvelle classe sociale, ça serait également un peu abusif au sens où ça fait 40 ans qu'on parle d'une nouvelle classe sociale, donc elle est plus si nouvelle. Mais vous avez raison. Le moteur de la gentrification du côté des habitants, en tout cas, c'est celui-là, c'est le fait de ne pas avoir les moyens économiques de se loger dans les quartiers qu'on désire, d'aller du coup chercher un petit peu plus loin dans des quartiers qui correspondent quand même à peu près aux exigences. Donc rester près du centre, ça c'est très important pour les professions artistiques, culturelles. Et puis être dans un environnement qui n'est pas trop stigmatisé, donc on va dans les villes françaises par exemple essayer de se tenir à distance des quartiers de grands ensembles qui ont mauvaise presse et ensuite là où il y a distinction, c'est que cette classe sociale parvient en quelque sorte à valoriser un choix qui au départ est contraint et à créer, comme le disait tout à l'heure Sylvie Tissot, une revalorisation symbolique d'espace qu'ils ont au départ pas vraiment choisi en réalité.
Alors on regardera effectivement comment ils ont changé la physionomie de leur quartier, comment ils développent des associations, comment ils font des vides-greniers, ils développent des cafés concepts ou autres. Et là on va tout de suite partir, on va parler du Maghreb, dans les grandes médinas qui sont en train de changer de visage aussi avec les Européens qui investissent dans les médinas. Et nous avons pour en parler un spécialiste, c'est Max Rousseau. Bonjour Max.
Bonjour à tous.
Alors vous travaillez, vous êtes à Rabat, vous travaillez pour la recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, mais là vous êtes en France. Alors qu'est-ce que vous observez dans ces médinas du Maroc?
Alors les médinas, à mon avis, déjà sont que une seule facette du phénomène gentrification au Maroc, mais c'est certainement la plus visible, notamment vue d'Europe. Effectivement, c'est sûrement cette gentrification des médinas qui se rapproche le plus des processus qu'on peut observer en Europe, qu'observe par exemple Anaïs Collet, effectivement. Sauf que la vraie différence, à mon avis, c'est que les investissements dans la rénovation des biens patrimoniaux à forte valeur esthétique, si vous voulez, sont plutôt le fait d'étrangers, en effet.
Donc ce sont des étrangers, des Français, des Belges, mais en fait ils entretiennent un patrimoine, sinon ça tomberait en ruine aussi.
Absolument, c'est vrai. Et disons que c'est un phénomène qui a vraiment commencé à prendre de l'ampleur à la fin des années 90, qui est devenu très médiatisé au tournant des années 2000. Et là, les choses se sont vraiment accélérées avec vraiment des milliers de riads qui ont été transformés, réhabilités par des étrangers. Et auparavant, c'est vrai que ces médinas qui étaient plutôt des espaces d'habitat effectivement traditionnel de la bourgeoisie était vraiment tombé en désuétude sous l'effet de la périurbanisation en fait et de l'exode des classes aisées en périphérie.
Donc ces riads accueillent des touristes, hein, c'est aussi pour ça que c'est développé, ces Européens donc qui changent de vie, qui viennent au milieu des médinas. Est-ce que ça crée des tensions entre ces différentes populations?
Pas vraiment, parce que bah déjà, en fait, c'est vrai qu'il y a un usage fortement économique de ce type de bâtiments, qui sont, comme vous le dites, transformés en hôtels, hein, finalement. Mais il y a également des résidences secondaires, quand même, qui constituent une bonne part des achats des étrangers. Donc, ils ne sont pas transformés en hôtels. Ça veut dire qu'en fait, les étrangers sont là qu'à temps partiel, si vous voulez. Ce sont des nomades. Ils passent au moins la moitié de leur temps en Europe ou dans d'autres pays africains. Et pour ceux qui effectivement transforment les médinas en hôtels, ils créent quand même de l'emploi. On estime à peu près à 5 ou 6 le nombre d'emplois permanents pour un petit riad, pour tout ce qui va être femme de ménage, cuisinier, jardinier parfois, etc., etc. Donc ça c'est plutôt bien perçu par une population qui reste majoritairement pauvre, notamment dans les espaces centraux.
Et que font les pouvoirs publics alors face à ce phénomène ?
Les pouvoirs publics tendent clairement à accélérer le phénomène, ils le voient d'un œil bienveillant. Quand il s'est amorcé il y a une quinzaine d'années, ils n'ont pas très bien compris, ils n'ont pas trop réagi. Mais on peut dire effectivement que depuis 5-6 ans, disons, ils l'accentuent fortement. Ils y voient une forme de richesse, de revalorisation de leur vieille ville. Et puis il y a également tout un discours autour de la patrimonialisation qui est très récent au Maroc, et de mise en valeur des quartiers historiques centraux.
Mais ça va bien avoir une fin, ça, parce qu'une fois que tous les beaux édifices seront achetés, ça va se terminer. On en est où, là? Il y a encore des affaires à faire ou...
Non, il n'y a plus beaucoup d'affaires à faire, et les prix sont devenus extrêmement élevés sur la dernière décennie. Par exemple, dans la Casbah des Oudaya, qui est un des hauts lieux de la gentrification à Rabat, il y a des immeubles, là, enfin des riades, qui changent de main pour une somme autour de 1 million d'euros actuellement. Donc effectivement, on est peut-être au sommet d'une bulle.
Mais est-ce que ça cause pas aussi des problèmes pour la population? Du coup, les prix ont-ils tendance à augmenter dans ces médinas?
Si, bien sûr. La conséquence principale, c'est la relégation des populations les plus pauvres dans des espaces très mal desservis, dans la grande périphérie, en seconde couronne, là où on voit l'explosion actuellement de l'habitat informel. Ce qui pose des problèmes politiques et qui risque de poser des problèmes politiques de plus en plus importants dans les prochaines années.
Merci beaucoup Max Rousseau d'avoir été avec nous en direct. Vous travaillez pour le CIRAD donc à Rabat, mais là vous êtes peut-être en vacances en France. Merci en tout cas pour cette intervention. On va tout de suite prendre Abdallah aussi qui nous appelle de Ramongué, donc on est au Burundi. Bonjour Abdallah.
Bonjour la RFI et mes interminables salutations à tous les auditeurs de la RFI.
Merci beaucoup pour vos salutations. Alors vous êtes concerné, je dirais aussi au premier plan, par ces problèmes de gentrification. Racontez-nous.
Nous avions été chassés dans notre quartier en 2004 par l'arrivée d'un groupe d'habitants riches. Nous étions forcés de vendre notre parcelle parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour construire une maison comme les leurs. Et on était obligés d'être chassés dans notre quartier. On était dans la province des Bururi, pour ceux qui connaissent bien le Burundi. Maintenant, on est dans la province des Rumonge. Et cette histoire nous nuit. Ça nous nuit plus qu'autre chose, vraiment.
Donc, c'est ce qu'on entend depuis le début de l'émission, effectivement, où vous êtes des habitants de ces quartiers historiques et vous avez été repoussés plus loin de votre quartier d'origine.
Ouais, c'est vrai, parce qu'il y avait les gens, un groupe de gens d'habitants riches comme ça qui étaient venus et ils étaient obligés de construire de maisons beaucoup plus modérées que ce qui était dans notre quartier. Et maintenant, tout celui qui ne sait pas construire une maison comme celui-là, ben écoutez, il est obligé de quitter ces quartiers.
Merci beaucoup Abdallah pour votre témoignage, Anaïs Collet. Donc ça c'est un des signes aussi visibles, hein, de cette gentrification. Donc les habitants historiques quittent les quartiers qui sont pris d'assaut par ces nouveaux riches.
Oui, tout à fait. Ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage, c'est que il rappelle bien que quand même derrière ce phénomène qu'on décrit, il y a des rapports de pouvoir importants entre des groupes sociaux inégalement dotés de différentes ressources. Et en l'occurrence, ce que nous disait cet auditeur, c'est que ils étaient quand même propriétaires de leur parcelle, mais ils n'ont pas pu construire la maison selon les normes qui étaient devenues les nouvelles normes en vigueur. Donc il suffit d'un changement de normes, par exemple, ou de la réglementation de l'urbanisme dans le quartier, pour que des habitants se retrouvent exclus. Et ce que je veux souligner par là, c'est que ces rapports de pouvoir, ils peuvent jouer sur des différences de richesse économique, bien sûr. Hein, des habitants arrivent avec beaucoup d'argent et du coup rachètent des logements et les locataires se font expulser, mais aussi avec d'autres types de richesses. Et par exemple, un pouvoir d'influence ou des richesses culturelles variées, une aisance dans le discours, une facilité à se rapprocher des politiques, etc., qui vont permettre à certains gentrifieurs d'influencer en fait ce que deviendra leur quartier, leur environnement immédiat. Et donc on le voit dans le Bas-Montreuil avec une évolution aussi des normes qui peut se traduire de cette manière-là par une éviction de ceux qui ne correspondent pas aux nouvelles normes en vigueur dans le quartier.
Alors quels sont les signes visibles de cette gentrification? On ira à Berlin dans un instant, mais tout de suite Started Right, Hot Chips, c'est le disque à choisir, Romain. Let me tell you where I'm gonna be. Let me tell you, 'cause I don't know if you're gonna see. Let me tell you what I'm gonna show. Let me tell you, 'cause I don't know if you're gonna know. Let me tell you how it's gonna end. Let me tell you, 'cause I don't know if we'll still be friends. Let me tell you what I'm gonna do. Let me tell you, 'cause I don't know if you'll still be you. We took a chance and I found jubilation. Let me tell you, break away from human nature. I forget myself, forget my limitations. Let me tell you, be with me, be my conversation. And when it started, it started in time. It started right, still on my mind. And when it started, it started in time. It started right. milliards de voisins, on parle de la gentrification, ce phénomène de transformation des villes à partir des quartiers populaires, donc qui changent de main. Et tout de suite, direction Berlin. Alors le maire se plaisait à dire que sa ville était pauvre mais sexy. Résultat, une gentrification galopante. Et nous sommes avec Sarah Roumette, notre correspondante à Berlin. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors est-ce qu'à Berlin aussi, donc cette gentrification est un mot qui occupe vraiment les esprits et le débat public en ce moment?
Ah oui, c'est même devenu une des premières préoccupations des Berlinois ces dernières années, ce qui n'est pas étonnant parce qu'ici 85% des habitants sont des locataires, ce qui veut dire que l'immense majorité est directement et immédiatement touchée en cas de hausse des loyers. Berlin, en fait, au temps du mur, c'était une ville qui était marginale, qui était pauvre, qui attirait peu de monde. C'était sans doute à l'époque une des villes les moins chères d'Allemagne. Mais tout ça a changé en 1990 avec la réunification et puis surtout avec le déménagement du gouvernement vers Berlin en 1999. Et là, des quartiers entiers, donc ces quartiers qui étaient un peu marginaux et pauvres dont je vous parlais, ont été, notamment à l'Est, ont été rénovés. On a repeint des façades avec des couleurs très vives d'ailleurs, des roses, des verts. On a consolidé les balcons, on a remplacé les poêles à charbon qu'on trouvait dans tous les appartements par du chauffage central, donc des rénovations qui étaient plutôt nécessaires. Mais du coup, les loyers ont bondi. Pour vous donner un exemple, on parle en moyenne de 25% d'augmentation depuis 2007. Par endroit, ça atteint même 40% d'augmentation.
Mais alors, comment font les locataires qui habitent à Berlin pour faire face à toutes ces augmentations de prix?
Il y a beaucoup de cas où, en fait, ils ne peuvent pas payer, ils s'en vont. C'est ce qu'on appelle la gentrification à Berlin et sans doute ailleurs aussi. C'est à la fois les rénovations massives, donc plutôt bienvenues, les hausses de loyers qui les accompagnent, la spéculation immobilière qui apparaît et le changement sociologique de la population que ça entraîne. Dans le quartier de Prenzlauer Berg, par exemple, qui se trouvait à Berlin-Est et qui est vraiment emblématique de ce phénomène ici à Berlin, c'est 85% de la population qui a changé ces 20 dernières années. Donc, en fait, si on résume, aujourd'hui, Berlin, c'est une ville qui attire des gens du monde entier, des étudiants, des fonctionnaires donc du gouvernement fédéral, comme je vous le disais, des personnes qui, en général, ont souvent plus d'argent que la moyenne des Berlinois, où il faut se souvenir que 20% de la population vit des aides sociales. Du coup, ces personnes qui viennent à Berlin ne restent souvent que quelques années, repartent, mais entre-temps tirent les prix vers le haut et la ville est devenue beaucoup plus difficile à vivre pour ses habitants permanents, disons.
Mais est-ce qu'il y a des réactions justement de la part de ces habitants historiques hein, ou des mobilisations pour contrer ce phénomène?
Ben oui, parce qu'on est à Berlin et que Berlin, c'est une ville qui est très vitale de ce point de vue-là. Et il y a beaucoup de mouvements de résistance depuis la base, avec par exemple des associations qui fédèrent et qui défendent les locataires. Sur ce sujet, il y a un documentaire très intéressant qui a été tourné, qui s'appelle « Les locataires rebelles », qui vient d'ailleurs de sortir en français. Et c'est un documentaire qui fait l'inventaire de plusieurs initiatives réussies dans Berlin, contre les expulsions, contre les augmentations démesurées de loyers après les rachats d'immeubles, et toutes ces formes, disons, de la gentrification. Mais de façon plus institutionnelle, plus large, il y a aussi un référendum qui vient d'être lancé ce printemps dans la ville-région de Berlin, donc localement, et qui a réuni très rapidement 50 000 signatures pour la promotion de la construction et l'attribution de logements sociaux, qui est une des façons donc de pouvoir lutter contre la gentrification. Ce type de référendum, c'est un processus qui dure plusieurs années, mais s'il réussit, en 2016 ou 2017, il aura alors force de loi et il peut imposer par exemple un nouveau cadre législatif concernant le logement. Et puis, là je vous parlais d'une initiative locale, au niveau fédéral, dans tout le pays, il y a une loi de frein des loyers qui vient d'être votée et qui est entrée en vigueur début juin là, et qui permet d'encadrer les hausses de loyers à la relocation, donc dans des cas précis, dans certaines zones qui sont considérées comme tendues, comme par exemple Berlin justement.
Et vous habitez où vous, Sarah?
Moi j'habite dans un quartier qui s'appelle Neukölln, qui est un quartier qui lui aussi commence à être touché par la gentrification. On voit aussi les rénovations, on voit le changement sociologique de la population. Et justement, le quartier où j'habite, c'est un quartier qui vient d'être classé comme une zone tendue et qui donc est directement concerné par cette loi dont je vous parlais à l'instant.
Merci Sarah Roumette. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cet exemple berlinois, Anaïs Collet, vous êtes sociologue?
Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la place des pouvoirs publics et du politique dans cet exemple berlinois. Donc politique à la fois du côté des mobilisations habitantes, d'associations, etc., qui sont effectivement beaucoup plus développées en Allemagne qu'en France, qui le sont aussi également beaucoup dans les villes des États-Unis. Ce mouvement anti-gentrification n'est pas du tout structuré en France, il existe à peine. Donc je trouve ça assez intéressant de regarder ce qui se passe dans ces villes. Et puis de l'autre côté, du côté des pouvoirs publics, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux outils dont disposent les pouvoirs publics pour essayer de réguler le marché immobilier, puisque c'est quand même vraiment, vraiment le nerf de la guerre.
Parce que les signes visibles de cette gentrification en France, mais même partout dans le monde, c'est là où on voit que c'est vraiment un mouvement mondial, c'est que ces quartiers se ressemblent même un peu partout dans le monde. C'est toujours un peu les mêmes cafés concept qui ouvrent, avec des canapés usés, des tables en bois recyclées. Enfin, ils font du vélo, ils réutilisent les objets populaires. Il y a plus d'associations et il y a des vide-greniers. Enfin, c'est tous ces signes-là en fait qui se retrouvent aussi partout dans ces quartiers.
Oui, alors il y a deux choses derrière ça. Je suis pas tout à fait certaine qu'on retrouve exactement ces goûts, par exemple, de mobilier ou d'activités commerciales dans les villes, la ville indienne dont on a parlé tout à l'heure, ou dans les quartiers où la gentrification prend un visage un peu plus bourgeoisie établie, hein, avec le support de promoteurs immobiliers, où là, à mon avis, on va directement vers des goûts et des manières de vivre de la classe supérieure possédante.
Mais en Europe, aux États-Unis,
il y a effectivement une ressemblance très très troublante entre ces différents quartiers, parce qu'il y a une ressemblance très forte entre les gens et les groupes sociaux qui animent ces phénomènes de gentrification. En fait, hein, on est sur une fraction sociale qui se ressemble très fortement, qui a les mêmes goûts et puis qui s'influence en plus d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre. Mais il y a aussi un deuxième phénomène à l'œuvre derrière cette unification des visages des quartiers gentrifiés, c'est la récupération marchande. Parce que voilà, que ce soit les promoteurs immobiliers ou les commerçants, la récupération marchande est très très forte derrière ce phénomène, puisque les profits à en attendre sont très importants. Récupération, voire même initiation marchande, c'est-à-dire que maintenant que les promoteurs ou que les grandes firmes commerciales ont bien compris comment fonctionne le phénomène, elles peuvent tenter de l'initier et elles s'en privent pas dans un certain nombre de quartiers.
Et on va voir ce qui est à l'œuvre alors à Buenos Aires, puisqu'on a la ligne juste maintenant qui commence à fonctionner avec Sylvia Hernandez, qui est en train d'écrire sa thèse sur Buenos Aires. Bonjour Sylvia.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous en direct depuis Buenos Aires. Alors on parlait effectivement de ce phénomène en Europe qui avait des quartiers qui se ressemblaient assez, avec des cafés concept, l'utilisation du vélo ou des magasins bio. Est-ce que ça se métamorphose un peu de la même manière à Buenos Aires?
Bon, à Buenos Aires, on voit des processus aussi de gentrification des quartiers populaires, notamment au sud de la ville. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que on a des anciens quartiers historiques qui sont au sud de la ville, devenus populaires, et que on dit qu'ils ont gardé un esprit du tango, d'authenticité, et c'est pour ça qu'on voit les gentrifier. Mais aussi au sud de la ville, on a d'autres types de gentrification en ce moment, que c'est des anciens quartiers industriels, que après les années 80, ont vraiment suivi une désindustrialisation, comme disait Anaïs Collet aussi sur les cas des Bas-Montreuil, c'est-à-dire on garde des activités qui n'ont pas la force pour résister les nouvelles tendances. C'est-à-dire que c'est là que c'est les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics qui vont essayer de faire des investissements pour attirer des investisseurs privés, notamment connectés avec les industries créatives, disons l'art, les design, la technologie. Et on va essayer de changer un peu les emplois du sol, hein, disons, c'est pas plus les anciens petits ateliers, les industries, mais on va essayer d'attirer les nouveaux groupes sociaux, des groupes connectés à l'art, la technologie. Disons que on va commencer à avoir aussi une valorisation au niveau patrimonial. On va mettre en valeur les traits culturels de ces quartiers pour attirer les nouveaux groupes sociaux.
Sylvia Hernandez, est-ce que vous trouvez que ça va vite, ce mouvement à Buenos Aires?
Oui, ça va vite, notamment depuis la dernière décennie. Parce que l'Argentine a subi une crise en 2001 et après la récupération économique après cette période a vraiment changé la dynamique urbaine. Et la ville de Buenos Aires a reçu énormément d'investissements pour le développement immobilier et ça a vraiment favorisé la gentrification. Et là, on voit qu'il y a aussi un gros intérêt de la part de la mairie pour investir dans le sud de la ville, c'est-à-dire qu'on voit que le processus va assez vite, oui.
Donc c'est surtout dans le sud de la ville que ça s'opère.
Oui, c'est ça, là où on le voit notamment dans la dernière décennie. Même si la ville a vu vraiment un gros développement de l'immobilier en général, c'est le sud de la ville qui montre quelques processus hétérogènes. Disons, la gentrification n'est pas du tout aboutie au sud de la ville, mais on voit des effets assez concrets. Et là, les pouvoirs publics sont très concernés avec ce processus.
Et alors, est-ce que vous-même, vous habitez au cœur de ces quartiers du sud, Sylvia?
Non, pas moi. Moi, j'habite dans un quartier historiquement résidentiel au centre de la ville. Mais je vois qu'il y a pas mal de gens qu'on était à l'université, des intellectuels, des journalistes, des gens que je connais, bien sûr, qui vont déménager vers le sud parce que le coût de, par exemple, le loyer, c'est moins cher et ça va devenir vraiment attirant. Et on voit aussi des universités qui s'installent. C'est-à-dire que c'est vraiment tout un mouvement vers le sud.
Merci beaucoup, hein, Sylvia Hernandez, et bon courage pour votre thèse que vous êtes en train de finaliser sur ce sujet. On sait que c'est une période difficile. Merci beaucoup Anaïs Collet d'avoir accepté l'invitation de 7 milliards de voisins. Je rappelle que vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Strasbourg et vous publiez « Restez bourgeois, les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction » aux éditions de La Découverte. Merci à toute l'équipe, merci aux voisins et voisines pour vos messages. On revient demain pour parler des scouts. Et oui, pendant les vacances, ils partent en camp. Pour quel type d'aventure? Revenez demain. D'ici là, portez-vous bien.